C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. Je préfère quand c'est un peu trop plus ou moins calme.
You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me?
Moi, j'ai dit bizarre. Comme c'est bizarre.
Eastwood. Clint Eastwood.
Marcello! Come here!
Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, ça ne vous aura pas échappé. Hein. Nous sommes le mardi 24 mars 2026 et il est 14h à peu près à l'horloge d'Odo Radio. Bienvenue dans Ciné 100, l'émission consacrée au cinéma, à tous les cinémas. Bon alors soyons lucides, l'univers du 7e art doit sa pérennité au talent, voire au génie d'hommes et de femmes qui jouent, réalisent, décorent, mettent en scène, mettent en musique, trouvent l'argent, diffusent, costument des petites histoires qui deviennent grandes sur nos écrans, qui ne le sont pas moins. Sans tous ces hommes et ces femmes, que serait le cinéma ? Ben, une simple projection de lumière sur un écran blanc. Il nous manquerait ces moments de grâce où parfois la grande histoire rejoint l'intime. Pour le 21e épisode de la saison, eh oui, déjà, nous avons voulu mettre sous la lumière un homme et une femme qui ont marqué l'histoire du cinéma. Et cela ne pourrait se faire sans la participation de mes deux collègues, Anne-Lise et Patrick. Bonjour, messieurs, dames.
Bonjour, Jean-Jacques. Bonjour, Anne-Lise.
Bonjour, Patrick.
Comment allez-vous?
Ben, ça va. Et vous? Bonjour, Jean-Jacques.
Bonjour,
Jean-Jacques.
Bonjour, Anne-Lise. Ça va, bonjour, Patrick. On va pas passer la journée sur ça.
Non, ça va être 2 heures, ça fait long.
Voilà.
Ça va,
ouais,
Anne-Lise,
ça va bien, vous?
Ouais, ça va, et vous?
Ben, bien, et vous?
Bien. Et écoutez, si on a 5 minutes, je vous propose de partir à la rencontre de nos deux personnalités du jour. Comme tu dis. Deux fois.
Quand on évoque les grands metteurs en scène européens de la fin du XXe siècle, un nom s'impose immédiatement.
Moi.
Patrice Chéreau. Ah ouais, je sais. Né le 2 novembre 1944 à Lézigny, dans le Maine-et-Loire, il est l'une des figures artistiques à avoir profondément marqué 3 univers à la fois. Le théâtre, l'opéra et le cinéma. Chez Chéreau, tout commence très tôt à l'adolescence déjà. Il s'intéresse à la mise en scène et au jeu d'acteur très vite. Il s'impose comme un prodige du théâtre français. Et dans les années 80, il prend la direction du théâtre des Amandiers de Nanterre, qui devient alors un véritable laboratoire artistique. Chéreau y défend un théâtre intense, charnel et très physique.
Il met en scène de grands auteurs comme Shakespeare, Marivaux, mais aussi le dramaturge français Bernard-Marie Coltès, avec lequel il entretient une collaboration décisive. Les spectacles « Combat de nègre et de chien » dans la solitude des chats de coton ou « Key West » deviennent des références du théâtre contemporain. Lors d'une interview en novembre 82, Chéreau décrivait son projet concernant le théâtre des Amandiers avec notamment la création d'une école de comédiens.
Il y avait à Nanterre une maison de la culture et un centre dramatique. Il n'y en a plus, c'est un théâtre, c'est-à-dire que le but est de faire d'abord fonctionner cette maison comme un théâtre, c'est-à-dire sur une activité théâtrale, sur une activité de production théâtrale, de création, donc. Pas seulement du théâtre, et c'est à ça que je tenais finalement, c'est-à-dire ne pas diriger seulement un théâtre, ne pas diriger seulement un endroit où il y aura des représentations publiques, mais aussi un endroit de recherche, un endroit très concentré, fermé, souvent sur lui-même aussi, où on aurait pu faire du cinéma, intervenir par exemple dans la production cinématographique et regrouper les deux choses, théâtre et cinéma. Et puis une troisième chose qui me tient beaucoup à cœur, qui est une école de comédiens. Le problème était surtout de choisir des jeunes entre 18 et 25 ans, dont on a pensé qu'ils étaient les plus aptes d'abord à suivre ces 2 ans de travail que nous leur proposons, qu'ils tiendraient jusqu'au bout et qu'ils pouvaient proposer une sorte d'échantillon le plus varié d'acteurs, enfin de personnes qui deviendraient des acteurs. Nous assurons l'inscription en faculté, nous assurons les transports et un repas. Et les cours, sinon, sont gratuits. Sur 2 ans, ils auront des cours à peu près tous les jours de l'année. Et puis, tous les 3 mois, il y aura des stages où ils seront pris en charge, pris en main, comme ça, par des metteurs en scène de l'extérieur, par moi aussi, ou bien par des personnalités, par des gens de ce métier, des gens de cinéma, des metteurs en scène de cinéma qui viendront soit faire un stage avec eux, soit travailler avec eux.
Des cours gratuits, vous avez entendu.
Des cours gratuits, oui.
C'est incroyable.
C'est incroyable, ben oui. Ouais. C'est Chéreau.
Et oui, mais Chéreau ne s'arrête pas là. Ah. Il va également bouleverser le monde de l'opéra. En 76, il signe une mise en scène restée mythique, le cycle Der Ring des Nibelungen.
Non, c'est pas ce qu'il a dit.
Nibelungen.
Ouais, alors l'allemand, c'est pas mon...
Oui, a... bah, l'espagnol non plus. Donc
non,
ça...
l'anglais non plus d'ailleurs. Bon, bon, de Richard Wagner, présenté au festival de Bayreuth. Oui. Cette production, appelée le Ring du Centenaire, provoque d'abord un scandale. Chéreau y propose une lecture politique et sociale de l'œuvre, plaçant les dieux et les héros dans un univers inspiré de la révolution industrielle. Mais ce qui choque au départ devient rapidement une référence. Aujourd'hui encore, cette mise en scène est considérée comme l'une des plus importantes de l'histoire de l'opéra.
Alors, chez Patrice Chéreau, le fil conducteur reste toujours le même. Explorer les passions humaines, le pouvoir, le désir, les violences, les relations... Tous ces thèmes nourrissent son travail, que ce soit sur une scène de théâtre ou sur une scène d'opéra. Et c'est justement cette intensité dramatique qui va naturellement le conduire vers un autre art, le cinéma.
Et dans ce cadre-là, en 1998, Chéreau réalise Ceux qui m'aiment pendront le train. Dans la bande originale, on retrouve entre autres Willie DeVille qui chante Save the Last Dance for Me. Les paroles sont de Mort Schumann.
Tiens donc ouais.
You can dance, ever dance with the guy who gives you the eye, let him hold you tight. Laugh and sing, but while we're apart, don't give your heart to just anyone. And don't forget who's taking you home, and in whose arms you're gonna be. Oh, darling, save the last dance for me. Oh, well, I know that the music's fine and like sparkling wine. Go and have your fun. Laugh and sing, but while we're apart, don't give your heart to just anyone. So don't forget who's taking you home. And zippers on, you're gonna be. So darling, save the last dance for me. Baby, don't you know I love you so? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. Oh, I love you oh so much. You can dance and carry on till the night is gone. Go and have your fun. Laugh and sing, but while we're apart, don't give your heart to just anyone. So don't forget who's taking you home and in whose arms. You're gonna be. So darling, save the last dance for me.
Alors, on connaît les réalisateurs,
oui.
On connaît les acteurs,
oui. Mm-hmm.
Mais est-ce qu'on connaît celles et ceux qui choisissent les visages ?
Ah.
Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une femme de l'ombre, nous allons vous parler de Margot Capelier, Patrick.
Eh oui, c'est une femme essentielle, Margot Capelier. Son métier, directrice de casting. Mais en réalité, elle faisait bien plus que cela. Elle dénichait des présences. Elle ferait un regard, une fragilité, une intensité. Son nom n'est pas connu du grand public et pourtant elle a contribué à façonner le cinéma français des années 70 et 80. Dans les années 70, le cinéma français change. Il veut du vrai, du vivant, du moins lisse. Et Margot Capelier devient un passage obligé. Directrice de casting, ce terme est presque trop étroit pour décrire ce qu'elle faisait réellement. Margot ne se contentait pas d'attribuer des rôles, elle repérait des présences, elle devinait des trajectoires, elle sentait les fragilités, les tensions, les évidences. Tiens, écoutez ce qu'elle disait sur son métier de directrice de casting.
C'est un métier qui n'existe pratiquement pas en France. Je crois que c'est présenter aux metteurs en scène des comédiens qu'ils ne prennent jamais, ou en tout cas rarement.
Vous en avez présenté beaucoup pour ce film,
Jean. Oh là, oui. là, je crois que j'ai fait tout Paris, et même l'étranger. Les acteurs, c'est pas des bouts de bois, c'est pas des pions qu'on fait marcher. Il faut les aimer. Quelquefois, c'est un peu difficile, parce qu'ils ont des réactions un peu délicates, différentes, mais je crois que sans ça, ils pourraient pas jouer la comédie. Mais moi, je connais des acteurs de génie, je dis bien, je veux pas dire de nom.
Qu'est-ce qui fait qu'un comédien vous paraît adéquat à un rôle ?
D'abord, quelquefois, ça tombe sous le sens. Et quand ça tombe pas sous le sens, souvent la nuit, j'ai comme un petit éclair. Il me paraît que ce comédien, dans ce rôle, serait parfait. C'est rarement, mais rarement, il faut bien le dire, l'idée du metteur en scène.
C'est marrant, ça.
Oui.
Elle a travaillé avec les plus grands Truffaut, Godard, Sauté, Doyon. Des cinéastes majeurs, dans un cinéma en pleine mutation, elle était un maillon essentiel entre la rue et l'écran. On lui doit la découverte ou l'accompagnement de nombreux acteurs devenus majeurs. Elle avait cette capacité rare, voir ce que les autres ne voyaient pas encore. Isabelle Adjani, l'une des grandes figures du cinéma français.
Eh ben moi, je vous rajoute Sophie Marceau, devenue star des années 80.
Rajoutez.
Isabelle Huppert, la référence du cinéma d'auteur.
Sûr.
Juliette Binoche, internationale, oscarisée. Hein. Irène Jacob, figure forte du cinéma des années 90. Charlotte Gainsbourg, très influente sur le cinéma et la musique. Lambert Wilson, acteur international.
Grand comédien.
Oh, oui.
Alors, Lucas Bellevaux et Patrick Bruel. Patrick Bruel.
No comment.
On ne dira rien. Également cité parmi ceux dont les débuts ont été influencés par son regard. Dans les années 70, le cinéma français cherche de nouveaux visages, plus vrais, plus bruts. Margot sillonne les cafés-théâtres, les cours d'art dramatique, les scènes alternatives. Elle observe, elle écoute, elle prend des risques. Son travail est discret, mais déterminant. Un casting réussi, c'est un film qui respire juste. Un casting raté, c'est un film qui sonne faux. Et Margot Capelier avait l'oreille juste.
En 79, elle dirige le casting du film « I Love You, Je T'aime » de Georges Rohil. La musique est composée par Georges Delerue qui obtient l'Oscar et la meilleure partition originale.
Thank you. Combien de fois j'ai vu les mêmes films qui repassent comme ça, deux, trois fois dans l'année. Moi, je trouve que c'est dingue.
Moi, j'aime bien les musiques de Georges Delerue, je les trouve assez sympas, très, très légères. Alors, vous avez entendu un petit jingle ? Ben oui, parce que voici le moment maintenant où il faut s'asseoir sur son canapé. Oui, s'asseoir et puis regarder.
Prendre une bière ?
Si vous voulez.
Et si on a un fauteuil ?
C'est pareil.
On peut s'asseoir aussi dessus.
Le tout, c'est d'avoir une télé devant vous et de regarder les films qui vont passer dans la semaine qui suivent. Alors, comme on veut limiter quand même, on va choisir chacun de nous un film à conseiller.
D'accord.
Et donc, on va commencer par Anne-Lise.
Bah, parfait. Moi, je vous propose un film sur une nouvelle chaîne qui s'appelle Typique.
Typique.
Typique. Quel numéro ? Tout à fait. Faut chercher un petit peu.
D'accord.
Le film sera demain soir, mercredi, à 20h. Et ça s'appelle The Snowpiercer. C'est un film de Bong Joon-ho.
Vous pouvez répéter le titre ?
Snowpiercer.
Ah, Snow, d'accord. Snowpiercer. C'est le personnage, ça veut dire.
Tout à fait. Ouais. Oh, vous êtes bilingue. Vous êtes impressionnant, Jean-Jacques, quand même.
Oui.
Allez, pour la petite histoire, en 2031, la planète est recouverte de neige après qu'une tentative désespérée d'éviter le changement climatique ait conduit à une ère glaciaire. Un train circule tout autour de la Terre sans jamais s'arrêter. À l'intérieur de ce train, un microcosme reprenant les classes sociales, à l'avant l'élite, à l'arrière les déclassés, sans possibilité de changement, jusqu'à ce qu'une révolte éclate, emporté par un certain Curtis et ses alliés, et qui remonte petit à petit le train.
Ah,
et
d'accord.
On va alors découvrir toutes les classes sociales qui font une société, et les enjeux que ça peut donner. Mmh. Le réalisateur Bong Joon-ho, c'est le réalisateur de Parasite, oui. Tout à fait.
Oui.
Vous en connaissez
mais
un
rayon. C'est très symbolique, cette remontée dans la...
C'est très symbolique, ouais. Et c'est un grand film, on y voit... C'est une critique de la société, surtout.
Okay.
C'est avec Chris Evans, oui. Tilda Swinton et Song Kang-ho.
D'accord.
Voilà, Song Kang-ho.
Ah oui, bon, merci.
Et voilà, c'est mercredi à 20h sur Typique.
Très bien. Après, Patrick...
Écoutez, moi j'ai le choix, 1, 2 ou 3.
3, 2.
Non, le 3. Le 2.
Très bien. Alors moi, c'est samedi 28-25, mais j'aurais bien voulu parler de... Non, je vais prendre le 1. parce que le 1, il y a un peu mon chouchou quand même comme acteur dedans. Pardon, j'ai un gros chat dans la gorge. C'est un film de Paul Thomas Anderson.
Ah oui.
Hein, avec Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Ben Solento, Regina Hall.
Ah, attendez, c'est un film.
C'est un film. Oui, alors, ça s'appelle Une bataille après l'autre.
Ah, voilà. Oui.
Et ce que d'ailleurs, un Oscar aurait pu couronner Leonardo pour la deuxième fois, mais le film Sinner en a décidé autrement. Alors, le pitch, peut-être ? Allons-y, soyons fous ! Ex-révolutionnaire désabusé, Bob voit sa vie bouleversée par la disparition de sa fille, Willa. Pour retrouver cette dernière, l'ancien activiste d'extrême gauche va devoir reprendre contact avec son groupe et affronter son passé. Alors, c'est pas une bluette, hein, on va dire les choses comme elles sont. C'est pas un film à l'eau de rose. C'est plutôt un film un peu violent, avec plein d'explosions, plein de courses-poursuites.
Oh non.
Si, je vous assure, c'est plein de trucs comme ça.
Vous croyez pas qu'il y a assez de violence
à ce moment-là ? Et Leonardo, il est absolument prodigieux là-dedans.
Oui.
Il est absolument prodigieux. Et ça passe vendredi donc, 27 mars à 21h10, sur Canal+.
Très bien. Bon, alors moi, je vous propose un film jeudi soir à 22h25 sur Ciné+.
C'est tard, ça.
Oui,
tard.
Mais ça vaut le coup.
Encore une chaîne de Bolloré.
Oui, je vais essayer de vous dire quelle chaîne, parce que vous ne m'avez pas laissé le temps de le dire. Ciné+ Family, n'est-ce pas ? Je vous propose Les deux Alfred. C'est le titre de la comédie de 2020, signée Bruno Podalides. Alors, on y retrouve Alexandre, qui a deux particularités, n'est-ce pas ? D'abord, il est chômeur de longue durée. Et en plus, il est infidèle. C'est un époux infidèle. Donc sa femme qui est en mission dans un...
C'est grave d'être chômeur quand même. Hein.
Sa femme qui est en mission dans un sous-marin, lui a fixé un ultimatum. Je reviens dans 2 mois, si t'as pas changé, je te quitte. Et alors, bon, sans trop savoir pourquoi, Alexandre décroche un poste dans une start-up dont le patron, qui est un trentenaire aux dents longues, n'est-ce pas, il interdit à ses employés d'avoir des enfants. Sauf que Alexandre a 2 enfants, donc il faut qu'il triche, qu'il se cache un peu là-dedans. Et heureusement, il rencontre Arsène Beldo, un alter ego qui est sans domicile et qui cumule les emplois mal rémunérés et qui va soutenir Alexandre. Voilà. Alors, comme tout souvent dans les comédies de Bruno Podalydès, il y a beaucoup de social, un fond social est important. Et là, il s'attaque au monde de l'entreprise. En particulier, ces startups, vous savez, qui prônent une organisation de travail très libérée, mais qui, en fait, on fait face à un fonctionnement...
Miaou.
C'est contagieux.
Vous aussi, vous avez un
chat.
Oui,
un fonctionnement aliénant. Voilà, c'est avec Denis Podalydès, évidemment, Sandrine Kiberlin, Michel Vuillermoz, l'excellent Michel Vuillermoz, oui. Et Samuel Benchetri.
Et c'est quand?
Jeudi 26 mars à 22h25 sur Ciné Plus Family. Oui.
Je me permets de vous poser une question, allez-y. Jean-Jacques. Vous avez parlé des deux Alfred, mais par contre, il n'y a pas du tout un personnage qui s'appelle Alfred.
Non.
Puisqu'il s'appelle Alexandre.
Non, mais c'est pas obligatoire.
Mais pourquoi ce titre?
Vous allez demander à Bruno Podalydès.
Je l'appelle. Voilà. Si vous voulez, moi, dimanche, j'ai deux films.
Alors,
sur
on va continuer.
Eh bien, maintenant, on va continuer. À Patrice Chéreau. Voilà. N'est-ce pas?
Allez-y.
Alors, si Patrice Chéreau s'est imposé comme un grand homme de théâtre et d'opéra, il a aussi laissé une empreinte très forte au cinéma. N'est-ce pas, Patrick?
Absolument.
Ses films portent la même signature que ses spectacles, une exploration intense des émotions humaine. Son œuvre cinématographique ne compte que 11 longs métrages en tant que réalisateur et scénariste et 8 en tant qu'acteur. Pourtant, dans sa filmographie figurent quelques œuvres majeures.
Je ne vois pas de quoi on va parler.
Eh ben,
bien sûr, La Reine Margot, évidemment. Ça, on ne pouvait pas passer à côté de Chéreau sans parler de La Reine Margot, qui est sortie en 94. Inspirée du roman
Aucun
rapport avec Margot Capelier, qui aurait pu d'ailleurs signer le casting.
Elle a inspiré du
roman d'Alexandre Dumas. Le film plonge dans les guerres de religion dans la France du XVIe siècle, avec Isabelle Adjani, dont on a parlé, Daniel Auteuil et Vincent Pérez. Chéreau signe une fresque historique spectaculaire et violente. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sang, quand même. Le film marque les esprits lors du Festival de Cannes et devient l'un des plus grands films historiques du cinéma français.
C'est bien vrai, ça. Mais le réalisateur,
non, attendez, je vais peut-être dire que 3 ans plus tard.
Si ça vous dérange pas, je vais ajouter quelque chose avant que le réalisateur.
On va essayer de descendre un peu. On est à d'altitude là. On va redescendre au niveau de la mer.
Mais le réalisateur s'est aussi se montrer beaucoup plus intimiste.
Bien sûr,
parce qu'en 98, il signe « Ceux qui m'aiment prendront le train », qui est un film choral qui suit un groupe de personnes réunies pour un enterrement. Dans un train qui le mène vers Limoges, les tensions éclatent, les secrets surgissent, les émotions débordent. Le signe est salué pour sa direction d'acteur exceptionnel.
Bah oui.
Tout à fait. Et maintenant, c'est à vous, Jean-Jacques.
Mais alors, comme vous m'avez coupé, je voulais dire que 3 ans plus tard, Chéreau surprend encore avec Intimité, un film audacieux sur une relation purement physique entre deux inconnus. Présenté à la Berlinale, il remporte l'Ours d'Or, confirmant la reconnaissance internationale du cinéaste. En 2009, Chéreau revenait sur Persécution, qui sera d'ailleurs son dernier long métrage.
Le film est né du jour où j'essayais de m'interroger sur une façon excessive d'aimer qui est celle de Daniel. C'est pas tellement des doutes, c'est qu'il persécute, c'est qu'il réclame. Il est toujours en demande. C'était l'idée que être en demande, en amour, ce qui a priori peut sembler la plus belle marque d'amour qu'on donne à une personne, en fait peut être très pernicieux, peut être très, très dangereux et peut détruire cet amour. C'est atteindre à l'autonomie de la personne qu'on aime. Et le film est né du jour où je me suis souvenu d'une chose qui m'est arrivée, qui est un garçon de 35 ans à l'époque, qui avait mon âge, et qui s'était introduit chez moi. Et qui avait décidé que j'étais l'homme de sa vie. Voilà. Sans me demander l'autorisation. Sans me demander mon avis. Puisqu'il était sûr que c'était partagé. Et je me suis dit, finalement, entre Daniel, qui pense avoir toutes les raisons du monde d'être dans son droit, dans son bon droit, de réclamer de l'amour à Sonia, y compris de rentrer chez elle et de penser en plus que c'est elle qui ne sait pas aimer parce qu'elle n'aime pas assez, et entre Daniel donc et cet homme qu'il persécute, en fait, il y a similitude. L'idée est venue du film. Le film est venu le jour où je me suis dit, c'est l'histoire d'un persécuteur persécuté.
Pardon. J'étais en train d'écouter un petit peu.
Bah oui, on est subjugué.
Jusqu'à sa disparition le 7 octobre 2013, Patrice Chéreau restera un artiste profondément libre, refusant de se limiter à un seul art. Théâtre, opéra, cinéma, pour lui, ces disciplines étaient simplement trois façons différentes de raconter les mêmes histoires humaines. Et c'est peut-être cela, au fond, qui fait de Chéreau une figure unique, un metteur en scène capable de traverser les arts tout en restant fidèle à une même obsession. Comprendre les passions humaines.
Dans l'ensemble de sa carrière cinématographique, celui qui fut en 2003 président du jury du 56e Festival de Cannes aura reçu dans sa carrière deux Césars ainsi qu'un Ours d'Or. À cela, il faudra rajouter quatre Molières pour son œuvre théâtrale. Et tiens, d'ailleurs, pour la musique de La Reine Margot, Chéreau a fait l'appel à qui ? À Goran
Bregovic.
Nea daimena, nea tavismena, nea daimena, ligoro na ina filaki, ana ina Cristo, ana ili. Bog mi daje, Bog mi imena. Nea da imena, nea ta vizmena.
Assez aimable à l'heure qu'il est, au jour où nous sommes, et étant donné ce que nous savons, de me dire sur quelle longueur d'onde on vous attrape.
Bien sûr, 91.3 ou de radio, bien entendu.
Ce qui frappait chez Margot Capelier, c'était son intuition. Elle comprenait que le cinéma n'était pas qu'une affaire de technique, c'est une affaire d'humanité. À une époque où le métier de directrice de casting est encore peu reconnu, elle impose une exigence nouvelle. Elle défend l'idée de que choisir un acteur, ce n'est pas simplement remplir une case, c'est trouver une vérité. Avec Claude Sautet notamment, elle contribue à créer ces distributions d'ensemble si organiques, si crédibles, où chaque second rôle semble exister pleinement. Elle savait aussi accompagner les acteurs, les rassurer, les mettre en confiance. Beaucoup ont raconté combien son regard pouvait être décisif, parce qu'il était précis, mais jamais brutal.
Elle observait beaucoup, elle parlait peu. Et soudain, elle repérait quelqu'un, un acteur qu'on ne connaissait pas encore. Et quelques années plus tard, il devenait incontournable. Margot Capelier, c'était une femme de cinéma sans caméra, une architecte invisible des émotions. Lors d'une interview, l'agent artistique Dominique Besnard, ainsi que les acteurs Gérard Damon et Michel Blanc, évoquaient Margot.
Elle avait une autre idée des acteurs, et quand elle s'entichait d'un acteur ou d'une actrice, c'était merveilleux. Mais quand elle l'avait dans le nez, c'était terrible. Tous les acteurs ont une histoire avec Margot Capelier, hein. À la fois de se faire engueuler, mais c'était une papesse. Elle était dans son bureau, les jeunes comédiens tremblaient en frappant à sa porte. Elle travaillait avec Delon, elle travaillait avec Belmondo, elle travaillait avec tous les grands acteurs. C'était une femme, grande générosité. Et quand même pète sec, à la fois généreuse et pète sec.
J'aimais beaucoup cette femme qui me le rendait bien d'ailleurs, mais c'est normal. Elle était extrêmement gentille et je sentais qu'elle avait envie que je travaille. J'étais pas encore vraiment acteur.
Eh oui. Le coup de téléphone le plus formidable de Margot Capelier, c'était pour un film de Lozet dans lequel je n'ai pas été pris, mais c'était un rôle sans grand intérêt, mais peu importe. Je l'aurais fait évidemment. Elle m'a appelé, elle m'a dit: Allô, c'est Margot.
est-ce que tu sais faire du vélo ?
Et je lui ai dit, bah oui.
Non,
elle a raccroché. Point. Et la deuxième fois, c'est, oui, c'est Margot, est-ce que tu as de belles mains ? Je dis, bah, je sais pas, elles sont petites. Hein.
Non, elle a raccroché.
C'était la grande prêtresse. On disait, Margot Capelier m'a appelé, c'était, ah, là, c'est... putain, c'est...
Et oui, Margot Capelier est décédée en 2006, laissant derrière elle une filmographie impressionnante, mais surtout une méthode. Aujourd'hui, le métier de directeur de casting est mieux reconnu, parfois même célébré dans les festivals, mais ce n'était pas le cas au début. Parler d'elle, c'est rappeler que le cinéma est un art collectif, que derrière chaque grand rôle, il y a souvent un regard qui a su dire un jour « c'est lui » ou « c'est elle ». Mais c'est jamais moi, en fait. Et ce regard-là, pendant plus de 30 ans, bah, c'était celui de Margot.
Alors la série 10% raconte avec humour et humanité le quotidien d'agents d'acteurs à Paris, leurs succès, leurs crises et leurs relations très proches avec leurs clients célèbres. Est-elle inspirée du travail de Margot Capelier ? Bon, pas directement dans le sens où l'intrigue ne parle pas d'une actrice de casting. Cela dit, 10% et le métier qu'elle montre partagent une famille professionnelle proche de ce que représenterait Margot. Non, 10% n'est pas une biographie déguisée de Margot Capelier, non. Mais elle reflète une même passion pour le monde des talents, des regards professionnels et des trajectoires humaines derrière les étoiles.
En 1966, elle s'occupa du casting du film de Gérard Oury, La Grande Vadrouille, avec une musique de Georges Auric.
C'est quoi ça ?
Alors, c'est qui ça ? C'est quoi ça ? C'est le moment du quiz.
Puisque... oui !
Voilà. Alors, pour rester dans la thématique du jour, celui que je vous propose porte sur une... le quiz que je vous propose porte sur une personnalité marquante du cinéma. Il est tout à la fois acteur, réalisateur, scénariste, producteur, humoriste et animateur de télévision. Il s'agit de...
Nagui !
Alain Chabat.
Ah, alors, Alain Chabat.
Un quiz très simple, parce que...
oui, il ne faut pas plaisanter. Ouais. On est un peu blaireau.
C'est un quiz à classer dans la catégorie des faciles.
Est-ce que les trois filles derrière le hublot vont jouer ensemble
tout
ou pas ?
Tout le monde, mais il faut bien parler dans le micro s'il y a des réponses.
Il va falloir qu'elles s'avancent. Alors, attends deux secondes, j'avance le micro. Oui, parce qu'il faut le dire quand même, on est trois...
vous êtes trois derrière le
derrière la cabine.
Et l'une derrière l'autre, en plus.
Dans le bocal.
Bon, alors... première question,
oui.
Vous y êtes, hein ? Alors, de quel vous attendez la fin de la clochette pour répondre. De quel groupe d'humoristes Alain Chabat a-t-il été membre ?
Les nuls.
Les nuls.
J'ai dit, vous attendez la clochette.
Donc,
les nuls. Vous marquez aucun point. Oh, alors évidemment, c'est les nuls de 87 à 95, d'ailleurs. Question 2. Lequel de ces films n'a pas été réalisé par Chabat? Ah, personne ne répond, là. Ben, c'est normal, je ne sais pas donner les films. Donc, je vous propose 3 films. Vous choisissez.
Allez-y.
Didier, La Cité de la Peur ou
La Cité de la Peur.
Il y a un film qui n'a pas réalisé. Et bon, mais c'est Annelise qui remporte la deuxième question, n'est-ce pas?
Ah c'est bon bien
La
Cité de la Peur.
Non, c'est Alain Berberian qui a
réalisé. Oh, mais oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu es sotte.
Troisième question.
Oui.
Dans le film Gazon maudit de 1995, oui. Quelle actrice joue Marie-Jo, une femme qui veut piquer...
Josiane Balasco.
Non, attendez, laissez-moi finir à poser les questions. Ça ne compte pas, zéro pour Patrick. C'est effectivement, ce n'est pas Josiane Balasco, c'est Josiane Balasco. Voilà. Question 4. Vous attendez. Hein.
D'accord.
On attend quoi? Qu'elle réponde?
Donc, je pose la question. Question 4. Dans son film Didier, comme on en a parlé à l'instant, quel acteur est la tête d'affiche?
Jean-Pierre Bacri.
Ah oui. Très bonne réponse.
Je croyais qu'on devait entendre une clochette.
Mais vous ne l'avez pas entendue?
Mais non. Ah bah, du coup, il n'y a pas de point pour Patrick. Oh, il n'a pas entendu la clochette.
Et depuis tout à l'heure, vous ne répondez pas aux questions dans le bon tempo, madame. Je vous intente un procès. Je demande un recours.
Chut. Question 5. À quel héros de film d'animation Alain Chabat prête sa voix? 3 propositions. Buzz l'éclair, Shrek ou Gru?
Buzz l'éclair.
Non, Shrek.
Ting. Donc vous avez répondu tous les deux Buzz l'éclair, c'est faux.
Non, j'ai dit Shrek.
Non, vous vous êtes reprise, mais vous avez répondu Shrek dans un
premier temps. Eh oui, c'est comme ça.
Donc tout le monde, je regarde un peu les scores, qu'est-ce que j'ai là?
C'est moi qui suis en tête.
Tout le monde est à zéro. Donc on continue, question 6. En 2012, attention, hein, Chabat a adapté au cinéma la bande dessinée Gaston Lagaffe. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux?
C'est faux.
Ting, ting, ting.
C'est faux.
Ting, ting,
c'est
ting,
faux.
Ting, 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 ting,
c'est faux.
Ting, 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 ting. Ça y est, c'est fini.
C'est faux.
C'est faux.
Pourquoi?
Parce que c'est pas de lui.
Non, c'est parce qu'en 2012, il a bien adapté une bande dessinée au cinéma.
C'est Astérix.
C'est le Marsipulami.
Oui.
Avec le film Sur la piste
oui,
du
c'est
Marsipulami.
Ça, voilà.
Question 7. Pour sa prestation, dans quel film Chabat a remporté le César du meilleur acteur dans un second rôle?
Ah, je sais. Alors, c'est dans l'amour ouf.
Je vous... Écoutez, laissez-moi vous proposer les films. Sinon, je vous expulse.
Dites
du,
donc,
du
Patrick, on peut aller faire un quiz tranquillement.
Mais ça je va vous pas mets zéro pour le coup, tiens. Voilà.
Ah, si vous fait. Pouviez aller jusqu'à la fin de la question.
Je mets 25 points à Annelise.
Voilà.
Voilà. Question 8. Vous buvez, je vais en profiter. Dans la parodie de Journal télévisé des nuls, l'édition, qui est un con selon une rubrique récurrente?
Je peux?
Alors, je Patrick,
Régis,
Pierre ou Maurice?
Non, c'est Régis, c'est un con.
C'est bien Régis, oui. Bon, pour vous avez respecté le règlement, ça va, vous avez un point. 1 à 0, donc toujours. Question 9. Quel est le nom du film dans lequel Chabat interprète le Père Noël?
Klaus.
Attendez, c'est pas possible. 3615, code Père Noël. Le jour le plus long, la grande vadrouille ou Santa et compagnie.
Santa et compagnie.
Très bien, point pour Annelise.
Et pourquoi? J'ai dit avant elle.
Non, question 10. Dans La Nuit au musée 2, le 2, hein, quel personnage historique Alain Chabat incarne? Alors là, j'ai 3 propositions à vous faire. Louis XIV, De Gaulle, 4 propositions même. Louis XIV, De Gaulle, Napoléon Bonaparte ou Vercingétorix.
Napoléon.
Ah, vous avez... Non, la bonne réponse était Napoléon Bonaparte, donc 0. Je m'en sors pas mal. Question 11, et ce sera la dernière. Dans le film La Cité de la Peur, alors ça c'est très facile, donc vous attendez. Hein. Quel mot anglais le personnage joué par Alain Chabat prononce-t-il à l'américaine?
Serial killer.
Oui, très bien. Sorry. Vous égalisez sur le film, Carol. Patrick. Ouais,
j'avais déjà 2 points tout à l'heure.
Non, j'avais déjà 4.
Voilà.
L'autre, elle a mis tôt.
J'ai 4, vous avez 0.
Je rêve.
Enfin, vous avez de bonnes connaissances sur Alain Chabat, en tous les cas.
Oui, oui, tout à fait, on l'aime bien.
Bon, alors, qu'est-ce que vous disiez, Annelise?
Annelise, rien du tout. Mais alors, maintenant, on va faire la sortie de demain. Parce que la sortie de demain, ça mérite un petit jingle, n'est-ce pas?
Tout à fait.
On va passer.
Tiens, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, t'étais aux premières loges ?
Oui, alors.
C'est génial ce genre de spectacle, hein ?
C'est génial. C'est vrai, ça !
Eh ben, ça c'est vrai, oui, alors voilà. Bon, les sorties de demain, c'est pas compliqué. Demain, c'est mercredi, c'est le jour de sortie des films au cinéma. Donc, on vous invite à aller au cinéma. On vous propose d'aller au cinéma. On va pas vous inviter, on n'a pas les ronds pour ça. Donc voilà, alors, on a des films à vous proposer qui vont sortir au cinéma.
Puisque c'est l'objet de la rubrique.
C'est l'objet de la rubrique.
Tout à fait, c'est incroyable.
Et donc, Alice, qu'est-ce que vous avez ?
Eh bien, moi, j'ai un film de Koji Fukado qui s'appelle Love on Trial.
Vous avez un papillon sur la tête, je vous signale, Amelisa, et donc vous n'êtes pas aperçu. Non, pardon, un film japonais.
Un film japonais de Koji Fukado qui s'appelle Love on Trial. Ah. L'histoire, c'est une jeune idole de la pop japonaise en pleine ascension, Mei, commet l'erreur de tomber amoureuse, malgré l'interdiction inscrite dans son contrat. Lorsque sa relation éclate au grand jour, Mei est traînée par sa propre agence devant la justice. Confrontée à une machine infernale, les deux amants iront jusqu'au bout pour défendre le droit universel de s'aimer. On parle ici en fait de tout l'univers de la pop, de la K-pop, de toute cette vague qui arrive.
Cette industrie.
Cette industrie, tout à fait, qui arrive d'Asie et qui met en fait les droits humains à mal, puisque ces jeunes hommes et ces jeunes femmes sont obligés par leurs agences à avoir des clauses un peu particulières comme ça dans leurs contrats. On appelle ça d'ailleurs des slave contrats, même encore aujourd'hui. En 2026, il y a des jeunes, s'ils vont pas jusqu'au bout de leur formation, ils sont obligés de rembourser les agences.
Japon, en fait.
Japon, Corée, oui. Chine. On va retrouver un peu la même chose un peu de partout comme ça. Et oui. Alors il y a de plus en plus c'est dénoncé, mais c'est un peu mal vu de critiquer ce système-là, alors que c'est un système assez inhumain, parce qu'on parle quand même au départ des jeunes, ils ont 13 ans, 12-13 ans quand ils rentrent dans ces agences-là. Et c'est vrai que ce film est assez chouette là-dessus, c'est qu'il montre un peu le revers de la pop culture.
Oui,
voilà. Et ça s'appelle...
Instructif.
Oui, Love on Trial.
Et ça sort sur tous les écrans ?
Ça sort sur tous les écrans, tout à fait. Ça a été montré à Cannes.
Et prochainement, ça me fait... Non, j'allais dire quelque chose. Non, allez-y, Patrick.
Non, dites-la, votre bêtise.
Ça me faisait penser à quelque chose de précis, mais qui n'a aucun rapport avec
le cinéma. Aucun rapport avec le cinéma, oui, d'accord.
Donc, je préfère que vous me laissiez la parole pour autre chose. Alors, que vous la preniez.
Allez-y, prenez la parole. Non, alors, je vais vous parler d'un film de Milos Forman. Non, je plaisante, Jean-Jacques. Je sais que c'est le film que vous avez choisi.
Vous avez un humour à la con, hein, franchement.
Nous sommes en direct,
monsieur. Mais dites donc, vous allez vous...
Bon, alors...
Alors, je vais vous parler d'un film de Béranger MacNeise.
Donc, c'est Milos Forman, donc, on est d'accord, quoi. C'est une reprise, en fait. C'est une reprise d'un film qui est sorti en 76.
Vous pouvez couper le micro, il sert à rien.
Il y a 50 ans, vous pouvez imaginer.
C'est incroyable.
50 ans. Ouais, film, c'est Vol au-dessus d'un nid de coucou, évidemment, avec Jack Nicholson, l'épouvantable Louise Fletcher qui joue une infirmière. Alors, l'histoire se passe en automne 63 et Jack Nicholson joue un vétéran qui revient de la guerre de Corée et qui est accusé d'un crime. Alors, pour échapper à la prison, l'idée qu'il trouve, c'est de simuler la folie et de se faire interner dans un hôpital psychiatrique. Et là, il va provoquer le soulèvement des patients qui sont maltraités, notamment par les infirmières et l'infirmière en chef, notamment Louise Fletcher. C'est un grand classique du cinéma qui voit les travers d'une société et la façon de traiter certains problèmes. On a quand même nettement avancé sur le coup depuis.
C'est bien vrai.
Alors Patrick, ça vous intéresse ce que j'ai dit ?
Absolument, puisque je l'ai sous les yeux.
Voilà, mais vous auriez fait aussi bien que moi. Sinon
j'aurais bien fait mieux.
Oui, bien sûr.
Donc, parce que c'est quand même adapté d'un roman de Ken Kesey, donc il fallait quand même le dire.
Mais il ne fallait pas le dire, personne n'était au courant. Alors vous, votre film,
c'est... Alors moi, mon film, c'est « Les filles du ciel ». De Béranger MacNeise avec Héloïse Vol, Cyril Nataf et Yoa Angelis Chikaya. Héloïse n'a nulle part où aller, donc elle fait la rencontre de Mallory qui lui propose de l'héberger dans l'appartement qu'elle partage avec deux autres jeunes femmes. Héloïse va trouver là un nouveau foyer et une nouvelle famille. Mais leurs blessures passées, toutes ensemble, hein, menacent l'équilibre fragile entre ces femmes d'apparence si solide. C'est un film sur la sororité, bien sûr, hein, quand on l'aura compris, sur l'entraide que les femmes sont bien obligées de trouver, puisque les hommes ne font pas ce travail-là. Donc c'est un film qui n'est pas violent, qui n'est pas l'eau de rose, mais qui n'est pas violent. La violence, c'est dans les émotions qu'elle se situe.
C'est un film de quelle nationalité ?
C'est un film de Bérengère MacNeise. À mon avis, ça doit être un tout petit peu anglais ou américain.
Ouais, on dirait.
Hein, okay. Je pense. Donc, c'est un film. Bah, j'aime bien ces films-là où ce sont des gens qui se rencontrent et qui n'ont pas forcément, de lien direct,
oui,
mais qui font
la
société.
Pochou, par exemple.
Comme Magnolia ou alors Lantana, ces deux films où ce sont des personnes qui se croisent dans notre société.
On a déjà parlé de films dans ce genre-là précédemment. Ça, c'est des trucs qui sont vraiment intéressants.
Oui.
Voilà.
Oui, très bien. Vous vouliez dire autre chose, Jean-Jacques, du coup.
Je voulais dire, parce que maintenant, ça presse, le Cinéscence est fini.
Ah bah,
il vaut mieux.
Heureusement, parce que ça commence à être compliqué.
Oui, mais attendez, pour aujourd'hui. Bon, d'accord. Nous refermons.
On est obligé de revenir.
Nous allons refermer notre wouzou cinématographique, mais nous sommes prompts à le réouvrir tellement il compte d'hommes et de femmes en pleine lumière ou dans l'ombre, mais tous indispensables au rayonnement du 7e art, n'est-ce pas ? Alors nous avons une bonne nouvelle.
Ah !
Si l'heure passée avec vous vous a plu,
avec vous.
Avec vous ou avec nous ?
Comment ?
C'est l'heure passée avec vous ou avec nous ?
Arrêtez de me reprendre sans arrêt. Vous me coupez la parole.
C'est incroyable. Hein,
c'est formidable. C'est impossible. Quoi.
Mais c'est mérité, surtout.
On a une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Je ne sais plus où j'en suis, du coup.
Alors, si l'heure passée avec nous
vous a plu,
voilà.
Oui.
Ou bien, si vous n'avez pas tout compris, on doit être dans ce deuxième cas de figure, vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que tous les autres, mais qui sont meilleurs, hein, en nous réécoutant en podcast sur le site d'Odeur Radio, rubrique... Cinéscence, bien
sûr. Et n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. Et pour le direct, nous, on se retrouve dès mardi prochain.
Et ce sera sur Odeur Radio 91.3, bien entendu. On va aussi remercier Lorraine et Maëlys à la technique aujourd'hui.
Lorraine et Maëlys, toutes les deux.
Voilà.
Bonjour.
Comme d'habitude, nous allons nous quitter en chanson avec la perle du jour dénichée par Jean-Jacques.
Alors, en 1994, il y avait, on l'a entendu, Goran Bregovic, hein, n'est-ce pas ?
Oui.
Mais il y avait aussi Florence Diono.
Ah oui !
Qui, dans la grande tradition de la chanson paillarde, chantait « J'ai besoin de baiser ».
Avec un S à baiser. Hein.
Ah, bah, avec un S à baiser, bien sûr. C'est une chanson à classer dans les chansons à sens caché. Voilà, à vous de le trouver, ce sens caché, mais à mon avis, c'est très facile.
Allez, on va se quitter à mardi prochain et en attendant,
bon vent à tous.
J'ai besoin de baiser, j'ai besoin de caresses. Ton départ a laissé comme un gouffre profond un grand trou dans mon cœur. J'ai besoin de baiser, mon désir le confesse. Mais tu as emporté le morceau de ta vie qui comblait mon bonheur. Et mon âme impatiente n'est pas près d'oublier. Comme en langue vivante, tu savais t'exprimer. M'en as-tu débité des refrains de tendresse qui m'ont tant fait mouiller de mes larmes d'amour, nos frissons partagés. Je vois encore le premier soir de ton voyage, tout mon courage m'abandonnait. Tu as bandé ta volonté pour te permettre de mieux me mettre devant les faits. C'est que j'ai toujours le train fumant dans la mémoire. Je vois la gare d'où tu partis. Tu étais bien monté en queue, qu'ils m'en souviennent malgré ma peine toute la vie. J'ai besoin de baiser, j'ai besoin de caresses. Ton départ a laissé comme un gouffre profond un grand trou dans mon cœur. dans le fil de mes jours. C'est un nœud qui se dresse et m'échappe toujours quand je veux le saisir.